RFI, merci de nous écouter. 22h à Paris, 20h en temps universel. À la une de ce journal, J-5 avant le second tour des législatives. Ce mardi, les derniers désistements ont eu lieu. Les candidats avaient jusque 18h pour déposer leur candidature, à l'heure où le Rassemblement national espère toujours obtenir une majorité absolue. En parallèle, nous parlerons de l'affaire Libéré Moussa. Le jeune homme de 25 ans a finalement été expulsé vers le Mali depuis la France. On y reviendra. Dans ce journal également, on parlera aussi avec la présidence de l'Union européenne, à peine à la présidence de l'Union européenne de la Hongrie. Le Premier ministre Viktor Orban a fait plusieurs déclarations concernant la guerre en Ukraine. Et puis, dans l'actualité également en Inde, des dizaines de morts dans un mouvement de foule lors d'un événement religieux. Et puis dans les Caraïbes, la Jamaïque et la République dominicaine bientôt face à l'ouragan Beryl. Le phénomène classé catégorie 5 est très puissant.
Juliette Pietraszewski.
Et on démarre ce journal. En France, le second tour des législatives approche dans 5 jours. Nous saurons si l'extrême droite peut obtenir ou non une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Depuis 18h, les candidatures pour le second tour sont closes. On estime à environ 210 le nombre de désistements. Des désistements de candidats arrivés en troisième position, qualifiés pour les seconds tours, mais qui veulent coûte que coûte empêcher le RN d'obtenir une majorité absolue. On en reparle avec Raphaël Delvolvé.
Ça n'est que théorique, mais Jordan Bardella s'éloignerait de Matignon, car la grande conséquence de ces désistements en cascade, c'est l'effondrement du nombre de triangulaires. Il y en avait plus de 300 au soir du premier tour. Les candidats, désormais seuls face à l'extrême droite, doivent en principe bénéficier du report de voix. Et ce seront les électeurs de gauche qui seront les arbitres des nombreux duels, car majoritairement, des candidats Nouveau Front Populaire se retirent, plus de 100. Le camp présidentiel fait quant à lui le choix de s'effacer dans plus de 80 cas, impossible toutefois de savoir si ce barrage fera effet. Rien n'indique qu'un électeur du camp présidentiel vote automatiquement au second tour pour un candidat de gauche et inversement. Il y a de nombreuses consignes de vote et pas toujours claires depuis 48 heures et elles ne sont de toute façon pas toujours suivies. Sans oublier une donne cruciale, la participation, impossible à prédire dans cette configuration inédite. Verdict donc dimanche dans les urnes.
Raphaël Delvolvé. Et avec toujours en toile de fond les législatives, le Parti Socialiste alerte sur le risque de voir des candidats du Parti des Républicains faire alliance avec le RN à l'Assemblée nationale. Le Parti Socialiste estime en effet que des candidats du Parti de droite sont ambigus dans leur position. Éric Ciotti n'aura été que l'ouvre-porte d'une future coalition entre les Républicains et l'extrême droite, a notamment précisé Pierre Jouvet, le secrétaire général du PS. Et puis à noter aussi, à l'extrême droite, Marine Le Pen a mis en garde contre un coup d'État administratif du camp macroniste ce mardi. Selon elle, la majorité envisagerait une vague de nominations avant une éventuelle cohabitation, notamment de préfets. Pour Marine Le Pen, l'objectif de telle nomination dans la précipitation serait d'empêcher Jordan Bardella de gouverner le pays comme il le souhaite, dans l'hypothèse bien sûr où le RN remporterait la majorité dimanche. Réponse de l'Élysée à Marine Le Pen, il faut faire preuve de sang-froid. Fin de citation. En France toujours, c'est une affaire que RFI a suivie de près. Moussa Sako a finalement été expulsé vers le Mali. Malgré une deuxième mobilisation des passagers dans un vol Paris-Bamako ce mardi, le jeune homme de 25 ans, arrivé en France alors qu'il était enfant, était sous le coup d'une obligation de quitter le territoire, faute de titre de séjour valide. Il y a 4 jours, grâce à la protestation des voyageurs, Moussa avait pu être ramené au sol et renvoyé en centre de rétention administratif. Mais aujourd'hui, la police aux frontières est directement intervenue pour faire pression sur les contestataires. Récit par Amélie Beaucourt.
Ceci aura pour conséquence un placement en garde à vue et la perte du billet aller-retour.
Vous ne pouvez pas filmer, monsieur.
Je vous remercie de votre attention.
Ce mardi après-midi, un avertissement diffusé dans les haut-parleurs d'un avion pour Bamako tente de dissuader les passagers qui refusent de s'asseoir. Pour la deuxième fois en 4 jours, ils ont été invités à retarder le vol pour protester contre l'expulsion de Moussa, 25 ans, sous le coup d'une obligation de quitter le territoire. Si l'appel a permis de débarquer le jeune homme vendredi dernier, la pression de la police aux frontières a cette fois eu raison du mouvement de solidarité. Avant l'embarquement, des petits papiers distribués par la PAF donnent le ton. Le fait d'empêcher le décollage d'un appareil est un délit punissable de 5 ans d'emprisonnement et 18 000 euros d'amende. Bloqué au sol pendant plus d'une heure, le moteur de l'avion se met finalement en route alors que certains passagers restent debout en signe d'opposition. Moussa Sako est donc bel et bien expulsé vers son pays natal, pays dont il dit ne rien connaître. Arrivé en France à l'âge de 5 ans, il vivait à Montreuil avec sa famille. Il a interdiction de revenir sur le territoire pendant au moins 3 ans.
Amélie Beaucourt. RFI, il est 23h05 à Kiev. La Hongrie vient de prendre la présidence de l'Union européenne et son dirigeant Viktor Orbán a appelé l'Ukraine justement à un cessez-le-feu potentiellement limité dans le temps et qui permettrait d'accélérer les négociations de paix, a déclaré le Premier ministre hongrois. Pour rappel, la Hongrie est le seul pays dans l'Union européenne à être resté proche de la Russie depuis le début de la guerre avec l'Ukraine en février 2022. Ces propos sont donc à rebours des positions de l'Ukraine et de leurs alliés européens. Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, n'a pas réagi et a plaidé pour le maintien à un niveau suffisant de l'aide militaire versée par l'Europe. Et puis, en Norvège, l'arrestation d'un homme soupçonné de tentative d'espionnage aggravée au profit de la Chine. L'individu est de nationalité norvégienne, précise les services de sécurité. Il a été arrêté hier à l'aéroport international d'Oslo à son retour d'un voyage en Chine. Selon un responsable du service de renseignement intérieur, l'individu rejette les accusations dont il fait l'objet. Il a été placé en détention provisoire pour 4 semaines avec interdiction de communiquer avec l'extérieur. On va prendre la direction de l'Asie. En Inde, au moins 120 personnes sont mortes lors d'un événement religieux. Les adeptes d'un gourou hindou s'étaient réunis pour une cérémonie dans l'état de l'Uttar Pradesh. C'est au moment de partir qu'une terrible bousculade s'est formée. On ne sait pas encore précisément comment tout a dégénéré. Kombastin à Bangalore.
Baba Bole fait partie de ces prédicateurs autoproclamés qui rassemblent des foules d'Indiens. Il affirme avoir travaillé dans la police avant de recevoir une connexion avec les dieux hindous. Ce mardi, le gourou avait entassé sous une tente des milliers de fans, en majorité des femmes. C'est après son prêche que certains auraient suffoqué sous la chaleur et que l'évacuation a tourné à l'horreur. Les témoins racontent un mouvement de panique le long d'une route surélevée, d'où les pèlerins ont mortellement chuté pendant que d'autres étaient écrasés par la foule. Les terribles images de corps, de femmes et d'enfants font le tour des réseaux sociaux alors que le bilan risque de s'aggraver. Les bousculades liées à la ferveur religieuse sont fréquentes en Inde, mais celle-ci est particulièrement meurtrière. L'événement était connu des autorités qui jugent cependant qu'il a été mal géré et que sa jauge de public n'a pas été respectée. L'urgence est d'évacuer les blessés, au moins 150. Narendra Modi, le Premier ministre, a exprimé ses condoléances et promis un soutien financier aux familles des victimes. Kombastin, Bangalore, RFI.
Direction les Caraïbes, l'ouragan Beryl poursuit sa route vers la Jamaïque et la République dominicaine en alerte rouge. Il a déjà balayé plusieurs îles du sud-est des Caraïbes. La Jamaïque et la République dominicaine devraient être touchées de plein fouet par des vents violents et une tempête potentiellement mortelle. Le Centre national américain des ouragans a relevé l'ouragan justement en catégorie 5. C'est le plus puissant sur l'échelle de Saffir-Simpson et le plus précoce jamais observé dans le bassin atlantique. On y revient avec Yelena Tomic.
Les images tourné à l'aide d'un drone au-dessus de Cariacou, une petite île de la Grenade, montre un paysage de désolation. Des toits et des fils électriques arrachés, des maisons éventrées, des arbres et palmiers tenant à peine debout. La scène témoigne de l'intensité de l'ouragan Beryl, qui en une demi-heure, avec des vents allant jusqu'à 260 km/h, a frappé l'île qui se trouvait pile sur la trajectoire de l'œil de l'ouragan. D'autres îles et archipels, la petite Martinique, Saint-Vincent et les Grenadines, ont enregistré des vents catastrophiques et des pluies torrentielles. La Martinique, placée en état d'alerte à la tempête tropicale, tout comme le sud d'Haïti et de la République dominicaine, ont connu des vents forts et de grosses averses passagères, mais sans conséquence. Tous les regards se tournent désormais vers la Jamaïque et l'île de Tobago, où on a décrété l'état d'urgence. La population se barricade avant l'impact prévu mercredi. L'ouragan Beryl inquiète les climatologues par sa taille, son intensité et sa précocité, 2 semaines plus tôt que la normale, signe du réchauffement des océans dont la température atteint les niveaux habituellement enregistrés à la mi-septembre.
Yelena Tomic. Et au Cambodge, 10 militants écologistes ont été jugés à des peines de prison allant de 6 à 8 ans. Décision aujourd'hui de la justice cambodgienne. C'est un coup dur pour la société civile, dénoncent des défenseurs des droits humains. Accusés de complot contre l'État, les 10 militants, sans exception, ont plaidé non coupables. 3 d'entre eux étaient également poursuivis pour lèse-majesté. Selon les militants, les accusations ont été motivées par des raisons politiques. Un avocat a indiqué soupeser les possibilités d'appel. Les militants en question sont notamment lauréats du Right Livelihood Award, surnommé le prix Nobel alternatif, un prix que Greta Thunberg et Fridays for Future avaient reçu en 2019. Et c'est la fin de ce journal. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.rfi.fr.